les philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, on a le droit de retourner.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner. De tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Troisième émission des philosophes publics avec des gilets jaunes du Tourski en la personne de Frédéric.
Bonjour.
Stéphanie.
Bonjour Mathias.
Olivia.
Bonjour Mathias.
Et Ronald pour les philosophes publics.
Bonjour.
Alors, si vous vous souvenez de la dernière émission, si vous l'avez podcastée, si vous l'avez écoutée, en tout cas tel était le thème, nous revenions sur le RIC, sur cette proposition, sur ce référendum d'initiative citoyenne. Voilà, donc on aimerait repartir un peu autour des questions qui se posaient sur cette matière et continuer à se questionner, à voir apparaître à la fois les points de convergence, les points de dissensus sans lesquels il n'y a pas de démocratie et voir aussi après les limites, pourquoi pas l'avenir, c'est ce qui nous intéresse tous et toutes. Alors on pourrait revenir sur le dernier point, sur le point qui avait été ouvert par le RIC. Comment est-ce qu'on pourrait le reformuler, ce dernier point là, sur lequel on s'était quitté la dernière fois? Cette question de peut-être de la technicité du RIC, on a pas mal insisté là-dessus.
On avait parlé de comment le RIC pouvait être un petit peu mis en place à différentes échelles, donc notamment à l'échelle nationale. Donc c'est pas la seule, bien sûr, mais c'est celle qui intéresse tout le monde. Donc, enfin, tous ceux qui se sentent concernés par le RIC, parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui s'y adhèrent pas forcément ou qui ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'on pourrait en attendre. Ou en quoi ça pourrait nous aider au niveau politique?
Justement, pendant vos débats au Tourski, auxquels on a assisté en partie, est-ce que vous avez vu émerger des arguments pour ou contre qui vous ont éclairé sur la manière dont une majorité d'entre vous adhérait au RIC comme instrument politique?
Ben, sur l'Assemblée du Tourski, après, il y avait des avis partagés. Moi, personnellement, je trouve que c'est un outil démocratique très important, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui estiment que le RIC, oui, c'est un outil en soi, mais que la représentativité qu'on a actuellement leur correspond, dans la mesure où on ne serait pas forcément à l'aise avec la démocratie. Donc, moi, je pense que c'est juste une question d'investissement et d'intérêt personnel. Je pense que ça concerne chacun d'entre nous. Après... c'est pas forcément évident de s'y insérer, mais c'est un exercice qui est intéressant et qui, ma foi, permet de discuter avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de croiser ou avec qui on aurait eu l'habitude d'échanger.
Et dans les assemblées générales, il y a aussi des personnes qui ne sont pas favorables au RIC parce que justement ils s'insèrent au contraire trop dans une constitution. Enfin, classique, quoi. Hein. Donc, il y a des personnes aussi qui voudraient remettre en cause, aller encore plus loin dans la remise en cause de la constitution actuelle et du fonctionnement politique actuel.
Donc, des gilets jaunes pour lesquels le RIC n'était pas suffisamment...
Oui, parce qu'au début des gilets jaunes, le problème, c'est que les trois quarts sont contre le système politique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de politique. On ne voulait pas s'insérer dans la politique. Les gilets jaunes sont apartisans et apolitiques, c'est-à-dire que ce qu'on défend, ce sont des valeurs, ce sont des idées, mais ce ne sont pas... le but n'est pas de s'insérer en politique. Après, avec l'ampleur qu'a pris le mouvement au bout des 7 mois qu'on est actuel, on est obligé, entre guillemets, d'aller vers quelque chose qui rassemble les gens. Et moi, pour moi, le RIC est une solution pour rassembler les gens, parce qu'on peut parler de tout avec cet outil-là, et c'est le but. C'est qu'en fait, là, on a énormément de revendications qui reviennent, notamment sur le système actuel, sur les privilèges des élus, sur les baisses de salaire, sur la refonte du système éducatif, sur les hôpitaux et notamment les urgences qui sont actuellement en grève. Enfin, il y a énormément de sujets, et donc cet outil-là pourrait permettre d'aborder différents sujets, de au moins s'en questionner.
Ce que j'entendais tout à l'heure quand dans l'émission numéro 2, c'est que tu disais aussi que parfois quand on a été convoqué ou attendu pour s'exprimer sur de grandes questions, c'était beaucoup moins productif que quand on s'exprimait sur des sujets précis. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, le jeudi soir aux assemblées constituantes ou quand on a discuté du RIC, c'est tout l'intérêt qu'on pouvait avoir à venir parler d'une question très précise et trouver le temps d'en reparler ensemble. Et on voyait des gens qui avaient des approches très, très particulières, très instruites de la Constitution, des gens qui l'avaient amené à noter largement sur des sujets précis qu'on a pu échanger tout à l'heure sur des privatisations, ne serait-ce que celle de l'aéroport, des différentes ZAD, etc. Et je trouvais que là, il y avait effectivement, on était loin de l'image stéréotypée de deux personnes violentes situées, non pas du côté des forces de l'ordre, mais du côté des manifestants, des gilets jaunes, etc. Et il y avait vraiment ce désir et ce plaisir aussi à parler de choses très très alors parfois certains disent techniques mais là c'était au contraire instruite aussi sur des sujets particuliers et ça donnait une autre vision de la politique et donc un vrai goût pour la politique aussi et sur ces différents sujets.
De l'autre côté, moi quand j'ai participé à ces ateliers, une des premières choses qui m'a frappé aussi, c'est cette idée effectivement que les Gilets jaunes se positionnaient comme ayant tous quelque chose à reprocher à la politique et donc se mettant à distance de la politique, mais posant des sujets extrêmement politiques. Et donc je me suis demandé si cet intérêt pour le RIC était en quelque sorte le même, avait le même sens pour tous. Parce que moi, il me semble que c'est un outil extrêmement politique et qui d'ailleurs poserait dans son maniement des problèmes qui sont tout à fait proches de ceux que l'organisation politique actuelle pose aussi. C'est à ce propos d'ailleurs que j'aurais une question à poser et sur laquelle on a quand même déjà un peu débattu, mais pour recueillir votre avis, imaginez quand même dans l'exercice du RIC, est-ce que vous imaginez qu'un consensus général, l'unanimité va se dégager de chaque question? Est-ce que vous pensez que c'est un instrument de nature à mettre tout le monde d'accord? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait des minoritaires, de ceux qui, en quelque sorte, ne voient pas leurs revendications satisfaites par le RIC? Est-ce que ce n'est pas la reproduction encore d'un système de majorité-minorité, comme dans l'organisation politique qui est la nôtre? Finalement, est-ce que le RIC résout ce problème et contourne cette raison de se mettre à distance de la politique?
Moi, pour moi, oui, c'est pas qu'il va le contourner, c'est qu'en fait, il va permettre de pouvoir discuter d'un sujet d'un thème et de pas partir sur une généralité. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Admettons qu'on pose une question sur l'écologie, donc ça va être quelque chose de très précis. Ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent au moins se poser la question déjà, de pouvoir y réfléchir, en débattre et s'y intéresser. Et par la suite, donner leur réponse. Donc effectivement, ça peut être favorable à 80%, comme ça peut l'être qu'à 20%. Et dans ce cas-là, ça reviendrait au même que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire que quand vous avez des personnes, des concitoyens, qui vont voter, qui se déplacent, mais qui votent blanc ou qui s'abstiennent, au final, ils ne donnent pas leur avis. Ils disent juste « je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y a en place, je ne veux pas ça ». Donc je vote blanc ou je m'abstiens. Mais c'est pas donner leur point de vue. Alors que pour moi le RIC, enfin c'est mon avis personnel bien sûr, mais pour moi le RIC c'est de pouvoir aller interroger les gens sur des choses concrètes. Et par ce biais-là, je pense qu'effectivement ils se sentiront beaucoup plus concernés et seront plus à même de donner leur point de vue.
Et bien.
Oui, pour moi, le RIC, c'est aussi donner la possibilité de se poser des questions, comme tu disais, Stéphanie, si bien, mais aussi d'être force de proposition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aimerait. Moi, si je me pose sur moi, si je prends conscience, si je me mets en état de, effectivement, d'imaginer qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, me faire réfléchir et me dire, ben maintenant, j'aimerais avoir tous les éléments en main pour pouvoir choisir. Et je pense que dans le RIC, on peut aussi mettre ça en place, c'est-à-dire on peut le faire par consensus, donc c'est aussi reprendre des méthodes d'éducation populaire auxquelles on n'a plus accès ou difficilement, enfin, dans les milieux alternatifs. Moi, je trouve que c'est important, c'est ça, c'est qu'ils remettent l'éducation populaire en place. Et dans les mouvements des Gilets jaunes, on reprend cette notion-là, c'est-à-dire de poser le problème et de poser la question, et de oui, de non, argument par argument, voilà, et de pouvoir faire un choix. Voilà, parce que pour moi, quand on est conscient, on prend conscience, la liberté, elle est chez nous, quoi. Elle est en nous. Voilà. Et voilà. Pour moi, c'est la possibilité de justement d'être plus libre et de pouvoir choisir. Après, il y a peut-être les questions nationales qui sont peut-être à poser différemment. Mais ça, c'est pareil. Je pense que s'il y a un RIC, on peut aussi être amené à se dire, bon, qu'est-ce qui va être de la question le bien public, les biens communs, le service public, qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
Frédéric, peut-être avec vous.
Pour moi, je pensais là que le RIC représentait vraiment un désir de s'impliquer davantage dans la vie politique, de pouvoir donner son avis. Et il reflétait bien le sentiment que l'abstention très grande de nos concitoyens manifeste, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas concernés, ils ne participent pas à l'élaboration des problèmes qui se posent à la société. Et ce RIC, pour moi, il manifeste le désir de s'impliquer davantage, de reprendre un peu le pouvoir, la main sur la vie politique. Et c'est pour moi, je pense, une bonne nouvelle, parce que longtemps qu'on disait que les Français ne s'intéressaient plus du tout à la politique. Bon, et ben, les Gilets jaunes, ils sont apartisans, mais je ne pense pas, moi, personnellement, qu'ils sont apolitiques. Au contraire, hein, ils ont remis la politique à l'ordre du jour.
Et on pourrait on avait aussi envie de réfléchir ensemble sur peut-être sur la perception que les Gilets jaunes que vous êtes pouvez aussi avoir de l'ensemble du mouvement, parce que ça c'est aussi une question qui se pose, mais c'est une question qu'on peut se poser nous aussi, je sais pas, en tant qu'enseignant ou en tant qu'enseignant en philosophie. On peut dire ce qu'on fait en classe, mais après parler de l'école, c'est une autre question. D'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on s'était posées ensemble, en se demandant s'il fallait un RIC sur l'école, comment est-ce qu'on pourrait l'écrire ensemble, etc. Quelles questions ça pourrait poser. Et alors, on avait envie d'en parler avec vous un petit peu de cette vision de l'ensemble du mouvement, ce qui n'est pas simple, parce que je pense qu'il n'y a pas d'homogénéité comme nulle part, et savoir qu'est-ce qui travaille, est-ce que c'est une question qui se pose, ou est-ce qu'on réfléchit plutôt à partir de soi pour avoir un peu la main aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport-là, alors je ne sais pas si c'est du local ou national, ou du singulier à l'universel, je ne sais pas.
Déjà, est-ce que vous avez souci de prendre conscience du caractère global du mouvement, ou est-ce que votre ancrage particulier vous satisfait, vous suffit?
Moi, je pense que c'est en train de les Gilets jaunes sont en train de se structurer progressivement sur toute la France, parce que on a des assemblées citoyennes qui se tiennent dans différentes villes, qui se fédèrent entre elles. On a de plus en plus de médias, des Gilets jaunes qui diffusent des informations. Et là, par exemple, on a l'Assemblée des Assemblées qui a été mise en place à Commercy, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois, c'était la première, et qui rassemble justement des personnes de chaque département. Donc c'est une assemblée, on va dire, citoyenne nationale, dans le sens où ce sont des citoyens de chaque endroit de France ou de Navarre, hein, de un peu partout, voilà, qui se sentent concernés et qui, sur leur propre assemblée, sont, entre guillemets, votés par les présents sur le lieu de l'Assemblée ce jour-là pour représenter l'Assemblée à laquelle il participe au niveau national dans cette Assemblée des Assemblées. Donc la prochaine a lieu le week-end du 28
à
Morson-les-Mines, oui, ouais. C'est ça, donc au-dessus de Lyon. Et donc on verra un petit peu ce qu'il en découle, mais c'est vrai que c'est déjà un premier pas vers cette démocratie où on arrive quand même à se fédérer et à voir un petit peu à l'échelle nationale qu'est-ce que ça pourrait donner.
Dans un média plus général que tel que Mediapart, on avait pu voir une nuit justement sur l'Assemblée des Assemblées à Commercy, oui. Ils ont rendu compte de ça, c'était vraiment très... Ça se voit sur YouTube très facilement, et c'est oui. Très intéressant de voir les échanges qu'il y a pu y avoir. Et c'est vrai que par exemple, aux philosophes publics, il y avait aussi différentes perceptions des Gilets jaunes, et ça nous a aussi fait travailler entre nous. Et puis le fait de se rencontrer, ça change aussi beaucoup de choses, sûrement. Et voir cette émission, c'était vraiment très intéressant pour nous. On s'y reconnaissait. Alors après, moi, j'ai parfois l'impression que selon l'expérience qu'on a les uns des autres, on n'a pas les mêmes images en tête. Voilà, des gilets jaunes, je ne sais pas si chacun voit midi à sa porte ou chacun voit l'autre aussi de cette manière-là, mais c'est vrai qu'on avait trouvé que là les débats étaient très intéressants et puis ça continue effectivement à se structurer. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas si entre vous il y a aussi des lignes de partage. Je crois qu'à Marseille il y a aussi différents groupes qui existent.
Tout à fait. Espérant Dieu.
Oui, les gilets jaunes.
Les gilets jaunes, il y a...
Il y avait le groupe de Saint-Loup.
Oui.
Et puis, je crois qu'il y a une Maison du Peuple qui s'est créée. Alors, je n'ai pas l'adresse en tête, mais qui a été mise en place sur Marseille, justement, pour essayer de regrouper les gens qui ne sont pas forcément au courant des différentes assemblées. Mais il y a différents groupes sur Marseille. Et bon, le but, c'est quand même d'essayer de se regrouper. Mais le fait qu'il y ait différents groupes ne change rien. Après, chacun va là où bon lui semble en fonction de ses valeurs et de ses idées.
Il y a des liens aussi. Il y a des convergences de lutte qui se mettent en place.
Oui, notamment avec la rue d'Aubagne, par exemple.
Tout à fait, avec la rue d'Aubagne, avec le collectif du 5 novembre. Il y a sur le climat, on a aussi manifesté souvent ensemble. Mm-hmm. Voilà, les manifestations, en tout cas, des Gilets jaunes participent très souvent à cette convergence des luttes, quoi. Mm-hmm. Après, voilà, il y a la manif, et puis après, il y a aussi un deuxième round, quoi.
Bon, après, il y a la question qui fâche aussi, hein, une question toute personnelle, hein, que je me pose, de savoir si précisément dans cette convergence, le mouvement des Gilets jaunes est prêt à rejoindre certaines forces politiques. Est-ce que vous pensez que ça reste une voie impraticable, ou est-ce que finalement vous pensez que pour faire aboutir les revendications qui sont les vôtres, vous pourriez vous fédérer à des forces politiques existantes ?
Moi, je pense que ça serait tout à fait une bonne chose, hein, qu'il y ait une convergence des luttes. Et bon, il n'y a pas en France que les Gilets jaunes qui ont envie de modifier la vie politique dans notre pays, étant donné ce qui s'y passe. Bon, donc, il y a de toute façon d'autres associations, d'autres groupements qui vont un peu dans le même sens que les Gilets jaunes, et donc on espère qu'on puisse petit à petit se rejoindre. Il y a aussi au niveau national, on n'en a pas parlé, d'autres propositions de coordination. Par exemple, il y a la ligne jaune qui essaye d'établir une charte commune à tous les Gilets jaunes. Il y a aussi les conclusions du vrai débat, hein, c'est le débat dont on a parlé dans une autre émission, qui a été fait en parallèle avec celui du grand débat. Donc il y a des conclusions qui ont été tirées de ce débat, et maintenant on passe à la constitution d'assemblée qui est citoyenne, qui essaye de voir d'en faire la synthèse et de voir qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait en faire des propositions de loi.
D'accord.
Tout ça, ça se
bon,
rejoint.
Bon, l'émission va s'en terminer, mais est-ce qu'un dernier regret, un dernier mot vraiment que vous aimeriez aimer dire.
Je voudrais signaler qu'on a quand même constitué une troupe de théâtre au sein des Gilets jaunes de Tourski. Et grâce à Richard Martin qui nous a proposé son théâtre et aussi une pièce d'un écrivain alcaïan. Pour travailler sur cette pièce. Et donc, nous sommes en train de l'écrire de la jouer.
Comme quoi, la question de la représentation se pose toujours. Merci beaucoup.
Merci
et on vous dit à tout bientôt, alors.
À bientôt.
Prochaine émission.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème, en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
C'est quoi ce faut-il-là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophie publique.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.